Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel hors-série de Rétrovision, l'émission 100% Rétro Gaming qui commence sa quatrième saison, soit dit en passant, avec un spécial Amiga 500, le micro-ordinateur de Commodore. A noter que ce cinquième hors-série est co-réalisé avec Eric Cubisol des éditions Pix & Love, aussi connu sous le pseudonyme Titan. Et pour débuter cette sélection, place à Leander, studio Traveller Tales, sorti en 1991. Ici, nous avons affaire à un jeu de plateforme action dans la plus pure des traditions. Et vous dirigez un chevalier typé manga, parti à la recherche de sa promise, Lucana, qui s'est fait enlever par le démon Thanatos. Il faudra traverser un total de 21 niveaux répartis sur 3 mondes et le principe est de trouver des objets magiques qui, une fois récupérés, activeront la porte vers le niveau suivant. Avant de commencer chaque stage, une demoiselle vous indique les directives à prendre pour accomplir chaque mission. Il faut donc à chaque fois faire des allers-retours d'un point A vers un point B. L'armement est typique de l'époque, vous disposez d'une armure à 3 dommages et d'une bonne épée pour les attaques, sans oublier les bombes runiques qui dégomment tout sur l'écran. Il est possible d'améliorer son armement en récupérant quelques piécettes afin d'acheter des articles plus puissants dans des magasins bien cachés. La difficulté est bien dosée, seuls certains passages de plateforme demanderont une patience à toute épreuve et une précision d'horloger. Leander est aussi connu sous le nom de Legend of Galahad sur Mega Drive, avec une adaptation remarquablement fidèle à celle de l'Amiga, avec quelques améliorations tout de même, notamment graphiques et surtout au niveau des bruitages qui donnent carrément plus de punch. Leander bénéficie d'une réalisation très soignée, avec des graphismes apaisants et une bande-son relaxante. La maniabilité est correcte, le chevalier répond bien aux commandes malgré un léger temps d'arrêt après avoir lâché le joypad ou le joystick. Par contre, on regrettera l'absence totale de bruitage, ce qui est assez rare dans un jeu vidéo. Il existe des jeux qui, bien que précurseurs d'un genre, restent à jamais considérés comme des références. A ce titre, Barbarian de Palais Software s'inscrit totalement dans cette catégorie. Barbarian puise son inspiration dans l'heroic fantasy, mais plus particulièrement dans les romans de Robert Erwin Howard, le créateur du célèbre Conan le Barbare. L'animation gravitait principalement autour de celle du barbare. Il fallait qu'elle soit parfaite et détaillée le plus possible pour donner quelque chose de très réaliste. C'était une véritable prouesse technique pour l'époque dans le genre des versus fighting. Le nombre de mouvements exécutables est d'ailleurs conséquent pour l'époque. Les 8 directions du joystick sont utilisées pour le déplacement et l'on dispose d'autant de coups offensifs et défensifs lorsqu'on les combine avec le bouton d'action. Parmi toutes les attaques disponibles, l'une d'elles est d'ailleurs devenue aujourd'hui littéralement mythique. Trait de génie indiscutable, son intégration à la panoplie de coups fait de ce mouvement spécial le fer de lance du jeu, jusqu'à même représenter à lui seul toute son essence. Il s'agit bien évidemment de la célèbre scène de décapitation. Lorsqu'il est réalisé au bon moment, ce coup fatal permet d'éliminer instantanément son adversaire, quelle que soit la valeur de sa jauge d'énergie. Voilà de quoi favoriser d'innombrables retournements de situation. Barbarian est sans aucun doute un jeu mythique qui laissa un souvenir impérissable à toutes celles et ceux qui ont croisé le fer sur micro-ordinateur. L'histoire de l'Amiga a été jalonnée de jeux vitrines essayant d'exploiter au maximum les capacités de la machine afin de proposer aux joueurs tout ce qu'il y a de plus tape à l'œil et racoleur, comme par exemple ce Jim Power sorti en 1992, toujours sur Amiga. Et lorsqu'on s'y attarde un petit peu, l'Amiga permet des prouesses que les autres formats de l'époque parviennent difficilement à reproduire. Durant son périple, Jim va devoir affronter toute une pléiade de créatures des plus inquiétantes et éviter des pièges redoutables. Pour venir à bout de toutes ces mauvaises rencontres, 8 armes et 2 spéciales sont à sa disposition. Les petits modules qui flottent dans l'air sont des sondes envoyées par la Terre contenant moult bonus afin de l'aider dans sa mission. Enfin, certaines issues devront être ouvertes grâce à des clés trouvées ça et là dans chaque niveau. Le soft est doté de graphismes somptueux et très colorés, et malgré l'utilisation abusive de couleurs vives et criardes, plus de 200 couleurs à l'écran d'après la publicité de l'époque de Loriciel, l'ensemble reste très lisible et on se surprend même souvent à contempler le décor plutôt qu'à jouer. Les sprites des boss sont énormes, ils tiennent parfois sur plusieurs écrans, mais surtout c'est le style graphique très particulier qui rend le jeu si attachant. Côté bande sonore, le bilan est tout aussi extraordinaire. Chris Hulsbeck, le Yuzo Koshiro européen, a créé quelques-unes de ses meilleures mélodies pour l'occasion. Toutes les compositions sont admirablement adaptées à chaque niveau. Une preuve de réussite, la musique accompagnant la page de présentation résonne encore dans de nombreuses têtes. Jim Power alterne plusieurs types de gameplay. Suivant les niveaux, le joueur devra effectuer une partie du parcours à pied, plateforme sur 3 tableaux, et l'autre en jetpack, shoot them up sur 2 tableaux. Si l'intelligence artificielle des ennemis est finalement assez basique, en contrepartie, les boss de fin de niveau nécessitent tous une technique spéciale pour en venir à bout. Le jeu fut adapté sur plusieurs autres machines dès l'année suivante. Ainsi, l'Amstrad CPC, la Mega Drive, la Super Nintendo, le PC et même la PC Engine avec des musiques, à mon avis, de très bonne facture. Un constat se dégage alors immédiatement, mis à part la version Amstrad CPC qui fut un désastre, Jim Power est une réussite indiscutable sur chaque machine. Les jeux vidéo développés par les Bitmap Brothers ont souvent été des références, des classiques, que ce soit sur Amiga ou Atari ST. Les possesseurs de ces deux micro-ordinateurs se souviennent sûrement de Speedball, Gods ou Xenon 2, entre autres. Magic Pocket était leur seule réalisation qui n'a pas vraiment fait l'unanimité auprès des joueurs. Vous incarnez un Bitmap Kid, parti à la recherche de ses jouets et sucreries égarés dans différents mondes. Vous pouvez admirer sa superbe tenue vestimentaire typique du début des années 90 avec un jeans baggy aux poches littéralement magiques. En effet, c'est dans ces mêmes poches que le gamin sort ses attaques, toutes différentes selon le stage que vous devez traverser. Plus vous maintenez le bouton feu enfoncé, plus le projectile que vous allez balancer sera puissant, utile contre les ennemis mais aussi pour s'en servir comme support. Il est difficile de se perdre dans Magic Pocket, car si vous regardez bien, il y a une petite flèche jaune qui s'affiche juste au-dessus du personnage. Celle-ci vous indique la direction à prendre, y compris en diagonale. Tout comme Leander, il n'y a pas de boss de fin de niveau à proprement parler, excepté le niveau 2 avec le gorille. Les derniers niveaux de fin de monde vous mettent à l'épreuve avec des courses contre la montre, histoire de varier un peu le gameplay. Il y a aussi tout plein d'objets sympas à récupérer, comme par exemple des ballons rebondissants, des vélos, des masques de soudure ou encore des bubblegum. La jouabilité n'est pas au top, avec une palette de mouvements limitée à de simples sauts, mais heureusement que les armes peuvent servir pour effectuer différentes actions. Quant aux musiques, on ne s'est pas foulé non plus. Non seulement il n'y a pas de mélodie durant les parties, mais en plus, la musique d'introduction est samplée d'un hit dance des années 90. D'ailleurs, on va revenir là-dessus juste après ce test. Magic Pocket aura de l'intérêt aujourd'hui que pour les nostalgiques du début des années 90 ou les accros du rétro. Mais il laissa quand même d'agréables souvenirs de l'époque bénite des Bitmap Brothers. Petite interlude musicale avec un échantillon des musiques les plus emblématiques de l'Amiga, suivi de leur ressemblance, équivalence en musique électronique. Et on commence avec l'énorme classique House, la composition de Bomb the Bass pour la séquence d'intro de Xenon 2. La petite flûte d'intro d'Art and Magic que l'on retrouve dans pas mal de productions Deep House. le sample de l'intro de Magic Pocket qui n'est autre que Betty Boo avec Doing the Do. La guitare enivrante de Shadow of the Beast 2 avec John Beltran Amanazer. Le rythme oppressant du niveau 1 d'Agony avec le titre de Derek May, Beyond the Dance. Et on finit avec le piano hyper mélancolique de Shadow of the Beast 3, que l'on retrouve aussi sur un des titres de l'album de Polygon Windows. Durant les années 90, 21 Century, société fondée en 1991, a édité plusieurs flippers qui sont restés comme les meilleurs dans leur catégorie dans les mémoires. En 1992, Pinball Dreams est lancé sur le marché et fait un carton. Il enterre tous les jeux de flippers qui étaient sortis auparavant. Le soft comporte 4 tables variées qui se distinguent par des thèmes différents. Ignition, Steel Wheel, Beatbox et Nightmare. Dans ce premier essai, les tables ne sont pas encore très évoluées. On dénombre seulement une ou deux rampes et uniquement 2 flips par table. Pinball Dreams marque surtout par la qualité de programmation remarquable et par le soin tout particulier qui a été apporté au design. Les flippers de 21 Century ont des caractéristiques communes qu'on ne peut pas nier. On se souvient sans mal de leur graphisme somptueux, de leur musique entraînante et de leur animation ultra fluide et rapide. Toujours en 1992, Digital Illusion enchaîne immédiatement avec la suite Pinball Fantasy. C'est à nouveau 4 tables variées représentant 4 thèmes différents qui se dévoilent à nous. Avec Party Land, Speed Devil, Billion Dollar Game Show et Stone and Bones. Même si le moteur du jeu semble être resté le même depuis Pinball Dreams, les tables ont gagné en richesse. On dénombre à présent jusqu'à 3 rampes. Elles sont plus complexes que dans Pinball Dreams. Et un troisième flip fait son apparition sur les 3 premières tables. Pour conclure, Pinball Fantasy est une excellente suite à Pinball Dreams, car les concepteurs n'ont pas simplement redessiné les tables pour faire un simple add-on, mais ils ont bel et bien repensé et amélioré le jeu pour l'occasion, et ceci malgré le faible laps de temps qui sépare les sorties de ces deux jeux. Attention, chef-d'œuvre Shadow of the Beast 2 de Psygnosis, sorti en 1990, est le digne successeur du Shadow of the Beast premier du nom. Après s'être débarrassé de Maléto, Arbron, redevenu humain au passage, repart à l'aventure pour aller sauver sa sœur, sauvagement enlevée par Zelek, l'apprenti de Maléto, désireux de venger son grand maître. Dès les premières secondes du jeu, on se laisse tout de suite envoûter par l'ambiance personnelle et si particulière de Psygnosis, avec leur univers aux décors sinistres et aux musiques hypnotisantes. Le principe consiste à récupérer des objets et des informations qui permettront de traverser certaines zones jusque-là inaccessibles dans la grande ère de jeu, car dans l'univers des Shadow of the Beast, il n'y a pas de niveaux bien distincts et successifs. Tout cela renforce bien entendu le côté exploration et la liberté d'action. Quant à la difficulté, elle est sévèrement relevée. On ne dispose que d'une seule vie et les quelques malheureuses potions éparpillées ça et là ne changent pas grand-chose. Nombreux sont celles et ceux qui ont eu recours à l'énergie infinie avec le célèbre code 10 pins. Côté technique, c'est du grand art, et malgré une animation un peu lente, le personnage répond plutôt bien aux commandes, encore heureux vu sa difficulté. Sans oublier la partie sonore qui est un véritable délice pour nos oreilles, avec un thème tribal collant parfaitement à l'action. On se souvient notamment de la séquence de Game Over qui, avec seulement une image fixe, et une mélodie profonde nous a laissé un souvenir inoubliable. Alors si cette expérience vous tente, Shadow of the Beast 2 est une véritable incitation au voyage, avec son univers qui lui est propre, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre, à savoir le monde étrange et merveilleux de Karamoon. We'll be right back.
Parmi la star que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un ordinateur. Mais attention, pas n'importe quel ordinateur. Son nom est déjà célèbre dans le monde entier. Il s'appelle Amiga 500. Alors, faisons le point un instant. Jusqu'ici, il existait des ordinateurs très doués pour accomplir des tâches spécialisées. Mais tout cela, c'est déjà du passé. Car un beau jour, il y a eu la révolution. Cette révolution qui a secoué le monde informatique, elle a un nom, Amiga 500.
L'Amiga 500 de Commodore, c'est moi, le plus génial des ordinateurs personnels. Mes possibilités et mes fonctions sont bien supérieures à tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Les graphismes aux animations les plus sophistiquées vous feraient des prodiges, tant sur le plan de vos réalisations personnelles que de vos travaux d'entreprise. Je peux aussi personnaliser vos vidéos familiales, créer des effets spéciaux, créer vos textes et même composer les musiques. Je suis totalement poli. Voulez-vous jouer avec moi? Je possède des jeux électriques sans stéréo, j'enseigne et je sais même raconter des histoires. J'ai 512K de puissance pure et je peux aller jusqu'à 1 mégaoctet de mémoire interne. J'intègre le puissant microprocesseur Motorola 68000. Je dispose d'une unité de disquette incorporée 3 pouces et demi et d'un clavier complet avec 10 touches de fonction plus un bloc de touches numériques.
Unreal sur Amiga 500, sorti en 1990, édité par Ubisoft, est réalisé à une période où il est de bon ton d'aller toujours plus loin dans l'exploitation des capacités de la machine. Le projet est fièrement et insolemment annoncé comme le tueur de Shadow of the Beast. Unreal est construit autour de deux phases radicalement différentes. L'une est un shoot'em up 3D à la Space Area, dans lequel il faut détruire ou éviter la faune dans un paysage accidenté tout en collectant des bonus, alors que l'autre est un jeu de plateforme en 2D parsemé de casse-têtes et d'énigmes à résoudre. L'alternance de ces deux séquences, pendant une partie, brise toute monotonie puisqu'elle permet ainsi une succession de moments de réflexion intercalés de scènes d'action frénétiques et défoulantes. Les étapes en 3D, quant à elles, qui sont toutes à dos de dragon, sont le moyen qui permet de voyager d'un lieu 2D à l'autre. Il y a 8 longs niveaux en tout. Enfin, un scénario classique, mais extrêmement bien ficelé et digne des plus belles légendes mystiques, viennent cimenter le tout de fort belle manière. Côté son, c'est de toute beauté. Les musiciens de Maniac of Noise ont réussi à s'approprier l'âme du jeu en la sublimant de sons et mélodies au thème inoubliable. Mais avant tout, c'est bien évidemment cette qualité graphique omniprésente que l'on pourrait qualifier, sans exagération, de chef-d'œuvre. L'écran titre est une superbe image en 64 couleurs, entrelacée et en overscan. Unreal affiche jusqu'à 64 couleurs qui sont visibles simultanément grâce à l'emploi d'un coprocesseur spécifique et unique à l'Amiga, le Copper. Unreal fait partie de ces délices qui tiennent plus de l'œuvre d'art que du simple amusement vidéo. Plus qu'un jeu, c'est une expérience unique, une véritable invitation au voyage, au rêve et bien plus encore. Et croyez-moi, l'ambiance du jeu dans Unreal, pour ceux qui ont déjà joué, est très pesante. Le regard émerveillé et béat d'admiration en découvrant le monde merveilleux qui s'ouvre à lui. Un monde mystérieux, étrange et même inquiétant, mais tellement attirant. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce hors-série Amiga 500. Je tiens encore à remercier Eric Cubizol des éditions Pix & Love pour son aide et sa collaboration. Et puisque l'on parle de Pix & Love, sachez qu'il y aura un article de 2 pages, oui, 2 pages, sur Retrovision lors du prochain numéro, c'est-à-dire le 15e, à moins qu'il ne soit déjà sorti. On se retrouve dans quelques semaines avec une quatrième saison encore plus belle. D'ici là, à bientôt sur Rétrovision.